Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est la deuxième partie concernant la question « Pourquoi le sang de Jésus-Christ ?» Chers amis, tout comme un nouveau-né, l'enfant de Dieu doit grandir et devenir majeur, non seulement pour plaire à son père, mais encore pour soutenir ses intérêts, ses richesses, et ceci par un combat de chaque jour. Voyez-vous, durant sa croissance spirituelle, l'enfant est instruit, guidé et édifié par ses frères aînés qui ont reçu du Père les capacités spéciales pour cela, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Ensuite, il devient apte à porter les armes pour son père, oui, pour l'Éternel des armées, selon Amos, chapitre 4, verset 13. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, est-il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Quel combat de fou, penserez-vous? C'est carrément une affaire de psychiatrie. Et pourtant, la Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 25. Aussi le plus sage des psychiatres est cependant bien mal armé. Il est mal armé face aux psychoses qui se situent au niveau de la personnalité profonde de l'homme. Ce psychiatre étant lui-même simplement un homme, eh bien sa science lui permet de dominer dans une certaine mesure sur son âme, c'est-à-dire la psyché en grec, et sur celle des autres, bien sûr, mais pas sur l'esprit, du fait que le contenant est forcément plus grand que le contenu, et que l'homme est un être formé du corps, de l'âme et de l'esprit, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et que l'âme est plus grande que le corps, parce que elle le commande. Ce sont la volonté et les sentiments. Et que l'esprit est plus grand que l'âme parce que il la dirige. C'est la conscience. Je répète, parce que c'est important. Donc, l'âme est plus grande que le corps parce que elle le commande. C'est l'âme qui commande le corps. Ce sont donc, en quelque sorte, la volonté et les sentiments qui sont commandés carrément par l'âme. Et que l'esprit est encore plus grand que l'âme parce qu'il la dirige. C'est-à-dire, c'est la conscience. Donc, l'esprit est encore plus important. Or, le corps et l'âme du psychiatre forment sa personnalité. Elle est différente de la mienne et de la vôtre. Et notre personnalité se limite à nous-mêmes par contre, l'esprit, il faut bien le dire, ne peut se limiter à nous-mêmes du fait qu'une de ses expressions, qui est la conscience, est universelle par la notion du bien et du mal étendue à l'humanité. Et c'est en cela qu'aucun homme ne peut agir sur l'esprit de son voisin parce qu'il est hors des limites de son moi. Or, tout homme, psychiatre y compris, est obligatoirement soumis à l'esprit, à son impulsion à faire le bien ou le mal. Là aussi, je répète, tout cela est très très important et peut assez facilement être mal compris. Donc je répète, le corps et l'âme de notre psychiatre, elle forme sa personnalité. Elle est donc différente de la mienne et de la vôtre. Et notre personnalité se limite à nous-mêmes. Par contre, l'esprit, oui, l'esprit, ne peut se limiter à nous-mêmes du fait qu'une de ses expressions, la conscience, qui est la conscience, elle est universelle par la notion du bien et du mal étendue à l'humanité. Donc, c'est en cela qu'aucun homme ne peut agir sur l'esprit de son voisin, heureusement, parce qu'il est hors des limites de son moi. Or, tout homme psychiatre, y compris, est obligatoirement soumis à l'esprit, c'est-à-dire à son impulsion à faire bien ou mal. Les Saintes Écritures nous enseignent que le Créateur des esprits est Dieu, selon Nombre, chapitre 16, verset 22, et que les esprits immatériels sont les anges et que les matériels sont les hommes. Les esprits des anges déchus ou les démons, on les appelle ainsi, sont plus grands encore que l'esprit de l'homme. Ils le poussent donc nécessairement à faire le mal. Ce sont des esprits malins, méchants et impurs, selon Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 16, ainsi que Éphésiens, chapitre 6, verset 12, et Saint Marc, chapitre 1, verset 23. Bien sûr que ça est un peu pénible de citer toutes ces indications bibliques, mais c'est très important pour que plus tard, quand vous réécoutez le CD, vous puissiez tranquillement vérifier dans vos Bibles. C'est très très important que vous vérifiez, c'est même un devoir. Et ça peut après nous aider et vous aider à mieux pénétrer ce que vous venez d'entendre, que ça pénètre vraiment en nous pour le comprendre parfaitement. Donc, je répète ce passage, les esprits des anges déchus ou des démons sont plus grands que l'esprit de l'homme, et eux peuvent le pousser, peuvent nous pousser nécessairement à faire le mal. Ce sont des esprits malins, il faut jamais oublier, des esprits méchants et impurs. Et Dieu, le Saint-Esprit, pousse, par contre, l'homme que nous sommes, à la sainteté. Il nous pousse à faire le bien. Et par son âme, siège de sa volonté, de notre volonté, l'homme choisit le bien ou le mal face aux incitations de l'esprit. Il y a, par conséquent, une lutte terrible au niveau de toute âme humaine dans le choix des pensées et des actes. Et c'est pour cette raison qu'il m'arrive de prier de la façon suivante. Seigneur, purifie et sanctifie mon âme, mon corps, mon esprit et mes pensées. Ça peut-être vous sembler bizarre, mais cela m'a souvent aidé. Donc la vigilance ou la vitalité de l'âme, elle peut être vaincue par des agressions extérieures, telles que par exemple la convoitise, la violence, la passion, certaines idéologies et même certaines passions sexuelles, et aussi par des agents intérieurs, tels que la maladie et la drogue. Ainsi s'explique bien mieux que par la libido un peu restreinte et désuète de Sigmund Freud, la majorité des névroses et psychoses humaines du fait qu'elles ont leur source carrément dans le péché, c'est-à-dire dans la défaite face aux actions des esprits mauvais. La Bible nous indique le processus réel et l'aboutissement de la défaite de tous les hommes parce que, une fois ou l'autre, nous avons tous péché et chacun est tenté. Et quand nous avons tous péché, oui, nous sommes, il faut jamais oublier, tentés de droite à gauche. Et quand nous sommes attirés et amorcés par certaines convoitises, eh bien, ce n'est pas toujours facile de s'en sortir. Et puis, voyez-vous, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante en quelque sorte le péché. Et oui, et le péché étant consommé, produit, selon Jacques chapitre 1 verset 14 et 15, produit la mort. Là aussi, ça vaut la peine de revoir ce texte. Donc, la Bible nous indique clairement le processus réel et l'aboutissement de la défaite de tous les hommes, parce que une fois ou l'autre, nous avons tous péché, qu'on le veuille ou pas, et chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis, voyez-vous, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante forcément le péché, et le péché étant consommé, produit, selon Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, produit la mort. Mais voyez-vous, si l'homme ne peut gérer l'homme, eh bien le Saint-Esprit est lui seul et absolument et parfaitement capable de le faire. Et pour cela, il faut être dans la condition de celui qui a reçu quoi ? Qui a reçu le Saint-Esprit par la repentance et la foi en Jésus-Christ le Messie, et qui ainsi a ajouté à son esprit l'Esprit de Dieu, ce qui lui permet d'avoir raison des assauts des esprits au niveau de son âme, qui est la raison du plus fort. Et là aussi, ça vaut la peine de revoir cette sentence, donc ce passage. Mais si l'homme ne peut pas gérer l'homme, il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Et lui seul est parfaitement capable, oh oui, de le faire. Et pour cela, il faut être dans la condition de celui qui a reçu le Saint-Esprit par la repentance et la foi en Jésus-Christ le Messie, et qui ainsi, chers amis, a ajouté à son esprit l'Esprit de Dieu, ce qui nous permet d'avoir raison des assauts des esprits au niveau de notre âme. C'est donc la raison du plus fort. Toutefois, voyez-vous, la Bible dit que certaines influences particulièrement néfastes, notamment celles qu'ont subi les personnes converties, né de nouveau, après avoir été adepte de certaines pratiques, eh bien, elles ont, en quelque sorte, et personne n'y a jamais pensé, ou rarement, elles ont comme une chaîne autour de l'âme. L'âme a bien reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, mais elle demeure comme, en quelque sorte, étouffée, liée et empêchée de se libérer pleinement. C'est expliqué dans Saint Jean chapitre 8, versets 31 et 36. Donc, pour qu'un bagnard soit totalement libre, eh bien, il faut bien sûr, chers amis, qu'il soit gracié par la foi et qu'il soit libéré du bagne par le sang de Jésus-Christ. Mais encore, qu'on lui enlève les chaînes de son boulet, donc la libération des esprits. Avons-nous bien compris cela? Donc, pour qu'un bagnard soit totalement libre, il faut bien sûr qu'il soit gracié par la foi et qu'il soit libéré du bagne par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais encore, qu'on puisse lui enlever les chaînes de son boulet. Donc, c'est la libération totale de ces esprits anciens qui l'ont enchaîné. Si dans une bouteille où il y avait par exemple du vinaigre, donc on peut dire le péché, eh bien je veux mettre maintenant de l'eau pure qui est le Saint-Esprit. Chers amis, il me faut donc nettoyer soigneusement et même désodoriser par le sang expiatoire du Messie cette bouteille, il me semble-t-il. Ensuite, elle sera en état de recevoir l'eau pure, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et voyez-vous, cette bouteille pourra servir à étancher la soif des autres, donc de pouvoir témoigner de Christ. Mais elle se videra, oh oui, elle se videra très rapidement et se cassera peut-être même si elle est bousculée par la perte de la foi. Donc, c'est en quelque sorte par les épreuves. Les épreuves peuvent être si lourdes que on peut risquer, évidemment, de perdre la foi. Alors que la même bouteille plongée et baptisée, on peut dire en grec, baptisée, dans un puits de la racine grecque purifiée, qui veut dire purifiée, peut être retirée souvent, tout en gardant sa fraîcheur, et ceci pour donner à boire par l'eau vive des dons spirituels et de nombreux assoiffés, Élie est aussitôt replongée et elle reste invulnérable au choc venant de l'extérieur. Là aussi, ça vaut la peine de revoir ce passage. Donc, cette fameuse bouteille pourra servir à étancher la soif des autres. Alléluia. Donc, pour nous aider à témoigner de Christ. Mais elle se videra, malheureusement, très facilement, et se cassera peut-être même si elle est bousculée par la perte de la foi, qui sont les épreuves nombreuses. Alors que la même bouteille qui est plongée, baptisée dans un puits, ce qui veut dire purifiée, eh bien elle peut être retirée souvent, tout en gardant sa fraîcheur. Et ceci pour donner à boire par l'eau vive des dons spirituels, à de nombreux assoiffés. Et Élie est aussitôt replongée, et elle reste de cette façon-là, invulnérable au choc venant de l'extérieur. Donc cette bouteille baptisée dans le puits est en quelque sorte l'image précise du baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, qui est annoncé par Christ aux siens dans Actes des Apôtres chapitre 1 versets 4 et 5, et qui est reçu par eux selon Actes chapitre 2 verset 4, et qui est perpétré jusqu'à son retour à tous ceux qui le veulent, qui l'acceptent. Actes chapitre 2 versets 38 et 39 est donc le seul moyen qui est donné par Dieu, écoutez bien, pour être plus fort que le corps, et ceci par la délivrance des maladies, être plus fort que l'âme, et ceci par la délivrance des passions, et être plus fort que les mâles intentions, les esprits qui sont des intentions mauvaises, et par la délivrance également de leurs chaînes. C'est pas merveilleux cela? Aussi, voyez-vous, qui peut le plus, peut le moins. Et si je domine l'esprit, je vais même pouvoir dominer l'âme et le corps. Je répète, on dit souvent qui peut le plus peut le moins. Donc, si je peux dominer l'esprit, je vais pouvoir dominer l'âme et le corps. C'est une réalité. Et à quoi me servent donc mes pratiques spirites, transcendantales, même religieuses, si je suis enchaîné à elles et esclave de leur liturgie et de leur rituel? Alors qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que là où est l'esprit du Seigneur, là est également la liberté. Oui, Adam est en train de me dire, je n'arrive pas à croire tout ce qui est écrit là-dessus et qui viendra au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 9 verset 24. Ce secours est simplement dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Oui, pour toutes celles et pour tous ceux qui doutent encore de la libération apportée par l'Esprit de Christ, commencez, chers amis, par vous mettre en contact avec des chrétiens authentiques qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Et ils prieront pour vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit manifesté dans votre âme par un sentiment profond et inaltérable. Rétabli dans les pensées et l'optique divine selon les paroles du Messie, il est alors plus facile de laisser les tabous, les fameux tabous que nous nous sommes faits sur Dieu, et de pouvoir ainsi abandonner nos propres pensées rationnelles, des pensées vaines de philosophie scientifique ou même religieuse quant à la vie et à la mort. Eh bien, nous savons tous dès lors que la mort n'est pas une fin injuste, une fin brutale et inexplicable, mais c'est le moment où s'accomplit un jugement absolument parfait pour tout être responsable de lui-même. Jugement qui rendra à chacun selon ses œuvres, est-il dit dans Romains, au chapitre 2, verset 6. Donc, la mort, pour les êtres innocents, dans cette même réalité, c'est que le passage d'une vie limitée à une vie infinie. Ainsi, les croyants qui se sont vus arrachés des êtres chers sont consolés de leur douleur momentanée, car ils savent devoir être réunis un jour ou l'autre à ceux qui viennent de les quitter quand viendra leur propre tour. Je répète, la mort pour les êtres qui sont innocents dans cette même réalité, c'est que le passage d'une vie limitée à une vie qui sera éternelle. Ainsi, les croyants qui se sont vus arrachés des êtres qui leur sont chers, ces croyants sont consolés de leur douleur momentanée, car ils savent très bien devoir être un jour réunis, ils vont être réunis à tous ceux qui viennent de les quitter quand viendra leur propre tour. Et la vie n'est plus injuste ou absurde, étant donné qu'elle ne représente qu'un certain temps de joie, d'épreuve, de souffrance ou d'injustice qui sont faites pour nous pousser au cours d'une existence passagère à une salutaire mais indispensable réflexion sur la rencontre avec Dieu. Ça, c'est aussi formulé dans Amos, chapitre 4, verset 12. Oui, avec ce Dieu dont l'amour nous certifie par son serviteur Jésus-Christ, son propre Fils sacrifié, qu'il peut nous conserver à jamais une vie parfaite et juste. Et là aussi, il y a les indications bibliques. Je vais vous les donner. Donc, revoyons que la vie sera plus injuste ou simplement absurde. Et ceci étant donné qu'elle ne représente qu'un certain temps de joie, d'épreuve, de souffrance ou d'injustice qui est faite pour nous pousser, chers amis, au cours d'une existence qui quand même est passagère, à une salutaire mais indispensable réflexion sur la rencontre avec notre Dieu et avec ce Dieu dont l'amour nous certifie par son serviteur Jésus-Christ, son propre Fils qui a été sacrifié, qu'il peut nous conserver à tout jamais une vie parfaite et juste. Et là, il y a les indications que veuillez bien les noter, c'est Saint Matthieu, chapitre 12, verset 18, et l'évangile de Saint Luc, chapitre 22, verset 27. Ainsi, chers amis, un choix a lieu face à cette parole de Dieu incarnée dans le Fils Jésus-Christ et présentée à nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains chapitre 14 verset 12. Et selon le choix que nous aurons fait, sera décidée notre vie ou notre mort. Notre mort perpétuelle. Romains chapitre 2, verset 15. Si quelqu'un entend mes paroles, est-il dit, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Son propre juge, c'est qui? Eh bien, c'est la parole, la sainte parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Je répète, selon le choix que vous et moi nous aurons fait, sera décidée notre vie ou notre mort perpétuelle, qui veut dire éternelle. Selon Romains chapitre 2, versets 15 et 16. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, dit Jésus-Christ, eh bien ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, moi, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et celui qui me rejette, eh bien, qui ne reçoit pas mes paroles, eh bien il aura, croyez-moi, son propre juge, qui sera la parole que Jésus-Christ a annoncé, et c'est elle qui le jugera au dernier jour. Selon Saint Jean, chapitre 12, versets 47 et 48. Voyez-vous, tous ces passages sont terriblement nécessaires de les noter et de bien les apprendre pour les comprendre, parce que c'est du sérieux. Et l'important à savoir, est que ce choix n'étant plus possible après la mort physique, là c'est terminé, on ne peut plus changer quoi que ce soit, et toute éventuelle intervention de l'esprit des morts ou toute pratique même religieuse faite depuis la terre en faveur de ceux qui sont morts sont incapables, que vous le croyez ou pas, de faire changer l'état de vie ou de mort perpétuelle irrémédiablement acquis à la mort physique, car il est écrit que le Fils de l'homme, Jésus-Christ le Messie, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, selon l'évangile de Luc chapitre 5 verset 24, et qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 verset 27, soit que la sainte parole de Dieu dit vrai, ou soit alors que il faut écouter certaines slogans et certaines pensées religieuses de certaines éminences. Mais je crois qu'il vaudrait mieux revenir sérieusement aux indications de la parole de Dieu. Aussi, je pense qu'il est absolument nécessaire de bien comprendre ce que nous venons d'entendre. Il est dit que l'important à savoir est que ce choix n'étant plus possible, c'est plus possible du tout après la mort physique, et toute éventuelle intervention de l'esprit des morts ou toute pratique religieuse, même par des éminences, faite depuis la terre en faveur de ceux qui sont morts, sont absolument incapables de faire changer l'état de vie ou de mort perpétuelle irrémédiablement acquis à la mort physique. Car, soit qu'il est écrit ou pas, et si c'est écrit, nous devons quand même croire la sainte parole de Dieu. Il est écrit que le Fils de l'homme, Jésus-Christ le Messie, il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi, après cette mort, vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Donc, mon propos, c'est de ne pas vouloir faire peur à quelqu'un, mais c'est de mon devoir, c'est vraiment de dire ce que la parole de Dieu tient à nous faire comprendre, c'est mon devoir. Je ne peux pas vous raconter des balivernes ou des contes de fées. Mon propos est vraiment pour ceux qui auront bien voulu jeter leur ancre durant l'écoute de ces CD et de leur avoir fait percevoir qu'il existe vraiment une valeur de vie ou de mort infinie attachée à la personne de Jésus-Christ le Messie, et que cette valeur les concerne tous, nous concerne tous, que nous le croyons ou pas, et qu'ils le veuillent ou pas. Que vous le voulez croire ou pas, c'est la même chose. La vérité, elle est immuable et absolue. Elle ne change pas. La parole de Dieu est la vérité absolue. Et donc, ne faisons pas comprendre à la parole de Dieu autre chose qu'elle veut nous dire. En effet, voyez-vous, il est normal que nous soyons un jour tous jugés, non pour ce que nous aurons fait de bien, écoutez bien, non seulement pour ce que nous aurons fait de bien, mais aussi pour ce que nous aurons fait de mal. Et ça, croyez-moi, c'est très sérieux. Et lors de ce juste jugement, la sentence elle tiendra seulement compte d'une valeur étalon absolument parfaite, qui est celle de la vie de Jésus-Christ représentée par son sang précieux. Donc notre vie, le sang humain, n'a aucune valeur pour la vie totale, selon 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 50. La peau d'un homme, son vêtement humain, Ésaïe chapitre 64 verset 5, le meilleur même, le plus luxueux soit-il, la religion, elle mérite donc de bien comprendre que dans la religion, il n'y a pas de mérites qui sont tangibles. Il n'y a pas une question de bonnes œuvres qui vont nous aider. Elle n'atteint jamais la valeur parfaite de la vie du Messie, une valeur seule, suffisante aux yeux purs de Dieu. Habacuc, chapitre 1, verset 13. Et tout cela pour entrer vivant dans le ciel, comme seul Jésus-Christ l'a fait. Je répète, notre vie, le sang humain, n'a absolument aucune valeur pour la vie totale. La peau d'un homme, son vêtement humain, le meilleur soit-il même, la religion la meilleure au monde, ni les mérites, ni les bonnes œuvres, peuvent atteindre jamais la valeur absolument parfaite de la vie du Messie, la valeur seule qui est seule suffisante aux yeux purs de Dieu. Et ceci pour entrer vivant dans le ciel comme seul Jésus-Christ l'a fait. Donc Christ n'a eu besoin absolument de personne pour le ressusciter et qu'il s'est élevé directement vers le ciel par sa propre puissance et sans passer à nouveau par la mort, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Donc la peau de l'agneau Messie vaut plus cher que toutes les peaux du monde. Pour entrer dans le ciel, eh bien l'homme doit, par conséquent, être revêtu du sang, de la peau de Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 9, verset 14. De même que pour aller dans le cosmos, il me semble, il faut revêtir la combinaison spatiale. Eh bien, si le cosmonaute ne le ferait pas, il aurait certainement des problèmes qui le mèneraient rapidement à la mort. Donc, il y a deux valeurs qui peuvent être données par Adam au sang de Jésus-Christ. Et quand je dis Adam, vous avez bien compris, ça représente vous et moi. Primo, soit Jésus-Christ est un mythe et que son sang n'a aucune valeur. En ce cas, l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 18, l'agnostique et l'athée matérialiste sont justement jugés sans valeur pour Dieu par sa propre parole. Œil pour œil et dent pour dent, selon Exode, chapitre 21, verset 24. Le remords perpétuel leur fera grincer des dents à jamais en compagnie des dieux qu'ils auront servi durant leur vie, selon Saint Matthieu, chapitre 8, verset 12. Donc vous avez là les indications bibliques. Je les répète sans répéter les indications. Soit que Jésus est un mythe et que son sang n'a aucune valeur, dans ce cas, l'agnostique et l'athée matérialiste sont justement jugés sans aucune valeur pour Dieu par sa propre parole, qui est œil pour œil, dent pour dent. C'est dans Exode chapitre 21, verset 24. Et le remords perpétuel, eh bien, croyez-moi, leur fera grincer des dents pour l'éternité, en compagnie des fameux dieux qu'ils auront servis durant leur vie. Et deuxièmement, Jésus est Dieu, et son sang garde une valeur absolument inestimable. Et personne ne saurait racheter son frère, sa sœur, ni donner à Dieu le coût de sa rançon, car le rachat de sa vie est bien trop cher. Psaume chapitre 49, versets 8 et 9. Pour Dieu, la race d'Adam est d'un prix inestimable. Quel merveilleux amour! Mais il exige pour son rachat une valeur inestimable, c'est la sienne. Quelle justice! Inestimable vient de timé, qui veut dire honneur, prix, valeur. C'est-à-dire que l'homme est incapable, absolument incapable, de donner une véritable valeur au sang de Jésus-Christ à sa vie, car cette valeur échappe totalement à toute estimation humaine. On ne paye pas Dieu. Et Jésus-Christ, il est Dieu. Actes chapitre 8, verset 20. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage terrestre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ prédestiné avant la fondation du monde et à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et ceci en sorte que votre foi et votre espérance puissent reposer uniquement sur Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 17 et 21. J'espère qu'on a bien compris ce passage. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, prédestiné avant la fondation du monde, et ceci à cause de vous, à cause de nous, qui, par lui, Christ, croyez donc en Dieu. Croyons en Dieu, lequel l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Et ceci en sorte que notre foi, que votre foi, et que notre espérance et votre espérance puissent reposer uniquement sur Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 17 et 21. Adam, c'est nous, nous pouvons faire sienne, nôtre, cette parole de Dieu, en sorte que de suite, après sa mort, après notre mort, il est pour avocat Jésus le Messie. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1, qui seul accrédite pour répondre à la troublante question que lui posera inévitablement l'Éternel Dieu. Je répète, Adam peut faire sienne cette parole de Dieu en sorte que de suite après sa mort, il ait pour avocat Jésus, le Messie, seul accrédité pour pouvoir répondre à la troublante question que lui posera inévitablement l'Éternel Dieu. À quel prix as-tu estimé, cher ami, le sang du Fils de Dieu? Je répète, à quel prix as-tu estimé le sang de mon Fils bien-aimé, dira le Père, Dieu l'Éternel. Chers amis, oui, à quel prix? À quel prix avez-vous estimé le sang du Fils de Dieu? Et cette question fatidique peut vous être posée, et ceci irrémédiablement, à chaque seconde, aussi sans sensiblerie aucune, mais avec un profond sentiment d'amour en mon cœur et avec le plus grand sérieux, et je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, car par ce Jésus de Nazareth, fils de David, qui veut être pour vous le sacrifice d'expiation parfaite, l'agneau qui est sans défaut, garant de votre réconciliation avec Dieu selon l'ordonnance stricte de la Torah, ordonnance irréalisable depuis la destruction du temple, car l'âme de la chair est dans le sang. Et moi, dit l'Éternel, je vous l'ai accordé sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, Lévitique chapitre 17, verset 11. Ainsi, sans le temple, l'accomplissement de cette mitzvah est impossible, car vous n'êtes pas juste devant Dieu. Nous ne sommes pas justes devant Dieu. Et par ce Fils Jésus-Christ, qui doit être pour vous maintenant le libérateur efficace du carcan glacé de vos traditions rituelles et légalistes, car voyez-vous, là où est l'Esprit du Seigneur, eh bien là est également la liberté, selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Et par ce Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui peut être pour vous, amis d'autres religions et amis croyants mais non pratiquants, la possibilité de mettre votre foi en pratique sans aucun intermédiaire humain. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le Messie. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car ce Jésus-Christ, Fils de l'homme, qui brûle d'être pour vous mes chers amis, incrédules ou athées, il brûle à être l'exemple de l'homme idéal, source d'une espérance meilleure que celle d'une vie humaine à court terme et d'une mort bête à faire pleurer, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, malheureusement, et j'en parle maintenant avec des larmes, car leur fin, que vous le croyez ou pas, cela sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, versets 19 et 21. Ayez le grand courage de piloter votre bateau contre le courant du monde religieux ou matérialiste. Ne soyez plus esclaves de la société, de la philosophie, de la politique, de la mode, de votre bien-être, parfois même de votre famille, souvent de vos pensées, toujours de vos passions. En un mot, de tous ces dieux réunis en un seul, en vous-même, car tout cela ne vient pas de Dieu, de Yahvé l'Éternel, et par conséquent ne peut aboutir à lui, ne peut jamais aboutir au Messie Jésus-Christ. Je ne vous demande pas de vous révolter contre l'ordre établi, pas du tout. Je ne vous demande pas d'adhérer à un nouveau parti, à une communauté religieuse, à une idéologie ou même à un homme. Je ne veux de vous aucun argent. Chacun de nous, pour notre part, nous sommes bien obligés de vivre dans le monde qui nous entoure. Nous n'avons pas le choix, mais nous ne sommes pas obligés de participer à tout le mal qui est dans ce monde. Saint Jean chapitre 17, verset 15. Ce que je désire, chers amis, c'est vous arracher aux mortelles souffrances, aux souffrances sans fin, vers lesquels vous vous dirigez plus ou moins rapidement, plus ou moins consciemment, en riant peut-être ou en pleurant, peu importe, mais vers lesquels vous vous dirigez sûrement si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire à savoir avoir la vie de Christ en vous. Je voudrais qu'au lieu de vous idolâtrer, vous vous aimiez vraiment pour réagir sans fausse honte contre la séduction de tout ce qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui voudra sauver sa vie par et pour lui-même la perdra. Mais celui qui m'abandonnera sa vie à cause de l'Évangile, il la sauvera en une vie infinie, dit Jésus-Christ dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 8, verset 35. Et ça vaut la peine de le répéter. Voyez-vous, je voudrais qu'au lieu de vous idolâtrer, vous vous aimiez vraiment pour réagir sans fausse honte contre toutes les séductions de tout ce qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et celui qui voudra sauver sa vie par et pour lui-même la perdra. Mais celui qui m'abandonnera sa vie à cause du Saint-Évangile, il la sauvera en une vie éternelle, dit Jésus-Christ, notre Messie. Saint Marc, chapitre 8, verset 35. N'ayez pas peur, chers amis, maintenant, de jeter l'ancre. Ne vous leurrez pas, car votre navire est en perdition et il n'y a que le salut en Jésus le Messie qui constitue pour tous les navigateurs de ce monde l'ancre absolue, solide et ferme de nos vies. Elle pénètre au travers de sa chair, jusque dans la présence de Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 19, et aussi au chapitre 10, verset 20. Nous voici donc arrivés au terme de notre traversée commune. L'ordinaire, l'auteur, oui, dans l'ordinaire, l'auteur, il inscrit, en général, et vous le savez, c'est même dans les films, il inscrit le mot « fin ». Ce mot « fin ». Mais quant à moi, chers amis, je ne peux pas écrire ce mot car j'en ai choisi un autre. C'est le commencement. Et vous aussi maintenant, mes très chers amis, en toute connaissance de cause, s'il vous plaît, rayez de votre propre main l'un des deux ultimes mots, sachant que celui qui va rester inscrit à la fin de ce CD représentera désormais la voie de votre vie, selon Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Ami, quel est ton choix? Le mot « fin » ou le mot « commencement » ? Chers amis, nous allons donc maintenant terminer par la prière. Nous allons prier ensemble. Et c'est dans votre cœur que vous allez répéter cette prière après moi. Je vais donc prier lentement pour que vous ayez le temps de répéter les mots et les phrases et aussi de bien les comprendre et les inscrire dans votre cœur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle. Car ta parole dit, l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence, j'étais perdu et indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Oui, il a souffert à ma place. Je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. rien ne me sépare désormais de toi. Maintenant, Jésus-Christ vit enfin en moi. Je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné, tu m'as admis dans ta famille royale. Je suis maintenant ton enfant. Tu es mon père. Ta justice est la mienne. Ta vie est ma vie. Ta nature est la mienne. Je suis à toi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il en a payé le prix. Sa justice est mise à mon compte et je suis enfin né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée maintenant. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, croyez-moi, c'est une réalité merveilleuse. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'écoute, pour l'intérêt que vous portez à ces études pas toujours faciles. Et il y en aura encore dans cette série, car elle n'est pas terminée, qui vont être de la plus haute importance. Nous allons grandir ensemble, encore davantage, dans notre Seigneur, le Messie, Yeshua HaMashiach, celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et à bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.